Judaïsme pluriel. Un regard sur les sciences, l'histoire, la musique, la littérature, animé par Roland Bentoussan. Panorama de l'histoire de l'art juif du 19 et 20e siècle avec Christelle Nojoc. Avec notre invitée Christelle Nojoc, nous réfléchirons sur la question de l'existence d'un art juif, sujet difficile aux approches multiples et complexes. Mais dans ce questionnement sur l'art juif, il y a deux mots, art et juif. Nous commencerons donc à nous poser une première question. Qu'est-ce que l'art ? Peut-on aboutir à une définition universelle, intemporel, est-ce que cela ne serait pas réducteur? Quels sont les éléments à prendre en compte? Tout d'abord l'artiste, le créateur, puis le tableau, son œuvre, mais aussi le spectateur, les critiques d'art, les musées, les galeries, la mode et bien sûr la période considérée. Et à partir de quel point de vue se placer pour approcher une définition? Par exemple, on parle beaucoup depuis le congrès de San Francisco en 2002 de neuroesthétique. Il s'agit de s'interroger sur les bases neurales de la contemplation de l'œuvre d'art et de sa création. Jean-Pierre Changeux, neurobiologiste, donne la définition suivante et je cite « L'art porte sur la recherche d'une communication intersubjective impliquant motivation et émotion en harmonie avec la raison. » Les philosophes aussi se sont beaucoup intéressés à cette question. Par exemple Hegel, qui déclare « D'une manière générale, le but de l'art, consiste à rendre accessible à l'intuition ce qui existe dans l'esprit humain, la vérité que l'homme abrite dans son esprit, ce qui remue la poitrine humaine et agite l'esprit humain. C'est aussi que l'art renseigne l'homme sur l'humain, éveille ses sentiments endormis, nous met en présence de vrais intérêts de l'esprit. C'est une introduction à l'esthétique de Hegel. Et voici des sujets de bac qui montrent l'intérêt de la question. Par exemple, en 2002, « Sans l'art, parlerait-on de beauté ?» En 2008, « L'art transforme-t-il notre conscience du réel ?» Enfin, en 2011, « L'art est-il moins nécessaire que la science ?» Abordons aujourd'hui avec notre invitée Christelle Nojoc la question de l'art juif sous l'angle de son histoire récente, celle du 19e et 20e siècle. En effet, la notion d'art émerge seulement au 19e et la conséquence en a été l'ouverture des débats sur la question même de l'existence d'un art juif. L'histoire de l'art juif est donc intrinsèquement liée à la question même de l'existence d'un art juif. C'est cette double histoire que Christelle Nojoc va nous raconter aujourd'hui en historienne de l'art qu'elle est. Alors je vais lui laisser la parole, mais auparavant je tiens à la remercier très vivement d'avoir accepté notre invitation, sachant qu'elle habite loin de Marseille et s'est donc déplacée pour vous, chers auditeurs. Je la remercie aussi de m'avoir fourni une précieuse documentation qui m'a permis de préparer cette émission, et en particulier celle de M. Dominique Jarassé, professeur d'université. Mais tout de suite, qui est Christelle Nojoc? Actuellement doctorante en histoire de l'art et sciences religieuses à l'Université de Lausanne en Suisse et à l'École pratique des hautes études de Paris, Christelle Nojoc travaille depuis son master à l'Université d'Aix-Marseille sur l'œuvre de Chagall, en particulier sur le regard que lui portent les intellectuels juifs et chrétiens à partir de l'après Shoah. Christelle Nojok est aussi chargée de cours à l'université. Alors, on va commencer par une première question, si tu veux bien. Qu'est-ce que l'art ?
Alors, précisément en tant qu'historienne de quelque chose, c'est-à-dire historienne de l'art, je propose qu'on voit en trois étapes que quand on regarde l'historique de la question du beau dans l'histoire de l'art, on constate qu'il y a différentes compréhensions du beau. Déjà dans l'Antiquité, l'art est la copie des reflets des choses. Donc il y a l'idée, il y a la compréhension de l'idée, la compréhension de la mimésis. Si on fait un grand bond vers le classicisme, là également, il y a différentes compréhensions du beau lorsque s'oppose l'esthétique de la raison contre le baroque, l'esthétique du sentiment. Et évidemment, énormément durant l'époque contemporaine, où se succèdent des mouvements esthétiques très diverses, on ne peut pas non plus définir une seule compréhension du beau. Quant à l'heure actuelle, qu'est-ce que l'objet d'art ou qu'est-ce que l'art aujourd'hui ? Je pense que la question est d'autant plus difficile que parfois, il semblerait que l'œuvre d'art ne soit pas précisément dans... Enfin, que l'œuvre d'art ne réside pas dans l'objet artistique, mais qu'il soit en quelque sorte dématérialisé dans la mesure où il se trouve dans le regard du spectateur.
Alors, l'histoire de l'art a connu de nombreuses ruptures esthétiques, tant chronologiquement que géographiquement. Oui. Qu'est-ce qui détermine le caractère unitaire d'un ensemble d'œuvres ? Le lieu, la forme, l'identité des artistes, le contenu des œuvres ?
Alors, le problème est effectivement très complexe. On a finalement à la fois les quatre et aucun des quatre. Détaillons un petit peu. Quand on réfléchit par rapport au lieu, c'est-à-dire un pays ou plus, de façon plus détaillée, une région, on a plutôt tendance à penser ou ça renvoie à l'idée du folklore, de tradition, d'héritage ou d'artisanat.
Alors peut-on parler d'art espagnol, italien ou français ?
Oui, les historiens de l'art parlent effectivement d'art espagnol, d'art italien ou d'art français. Par exemple, Flammarion a édité en 2000 et en 4 volumes l'art français d'André Chastel qui court de l'Antiquité au début du 19e siècle. Et c'est un ouvrage de référence qui fait l'étude des faits et des formes. Je cite l'ouvrage quand il dit que c'est pour analyser l'inépuisable puissance créatrice du sol français. Donc dans ce cas-là, on se réfère au sol français, au lieu. Également quand on parle de l'art français au 19e siècle, au 17e siècle par exemple, le grand siècle, ça renvoie à la spécificité de l'art en France à une époque donnée. Je pense au classicisme, Nicolas Poussin, alors que toute l'Europe... presque toute l'Europe est baroque. Également, si on parle de l'art italien de la Renaissance, ça renvoie à sa spécificité d'avoir été le berceau de l'humanisme et d'un retour aux formes antiques. Quant à la forme, on n'est pas plus sorti d'affaire en quelque sorte. Il faudrait qu'il y ait un dénominateur commun, un dénominateur plastique commun. C'est vrai pour certains cas. Par exemple, si quelques... caractéristiques comme l'expression du mouvement ou de la tension ou le mystère permettent de décrire le maniérisme au XVIe siècle, il faut quand même garder à l'esprit que ça ne concerne que certaines œuvres de certains artistes dans certaines villes d'Italie entre 1520 et 1590 en gros. Donc, si on prend un autre exemple, on ne peut pas parler d'un artiste cubiste, mais d'œuvres cubistes, parce que, bien entendu, un artiste cubiste n'est pas forcément resté cubiste toute sa vie. Donc c'est véritablement l'œuvre qui est cubiste, de la même manière que c'est une œuvre qui est maniériste et pas un artiste qui est maniériste. Après, pour les deux autres notions, l'identité des artistes et le contenu de l'œuvre, c'est-à-dire son iconographie, ce sont finalement deux aspects qui se renvoient dos à dos. Alors, pour exemple, en fait, un seul exemple permet d'illustrer cette question. Dans les années 50, il y a un père dominicain qui a créé, en appelant aux artistes contemporains, la décoration de l'église d'Assy. Et cette église d'Assy comprend une iconographie biblique, vétéro et néo-testamentaire. Et surtout, évidemment, puisque c'était le départ de la querelle de l'art sacré chrétien, Il a commandé les œuvres à des artistes qui sont certains athées, d'autres communistes, juifs ou chrétiens. Alors on peut se poser la question, si on cherchait à définir une œuvre d'art, c'est-à-dire un ensemble d'œuvres d'art, quelle légitimité aurait un artiste communiste? C'était le cas de Fernand Léger qui a réalisé la mosaïque de la façade sur le thème des litanies de la Vierge. Quelle légitimité a un peintre communiste à réaliser une mosaïque pour une église? Finalement, la même question se pose également pour la question de la confession. Chagall, qui était juif, a décoré le baptistère de cette même église. Est-ce que, pour autant, on peut parler, pour l'ensemble de la décoration de cette église d'Assis, d'art chrétien? Ou est-ce que, au contraire, l'art que produit Chagall en tant que juif reste de l'art juif?
Alors, peut-on peindre des œuvres juives lorsqu'on n'est pas juif? La question étant d'autant plus difficile qu'il faudrait déjà savoir quelle signification se cache derrière le mot juif. Autrement dit, qui est juif?
Oui, effectivement. Alors, la question de l'art juif est finalement plus simple si on regarde avant l'émancipation, l'art juif d'avant l'émancipation, avant les temps modernes, c'est-à-dire à partir de la Révolution, avant la Révolution française. Alors, la définition de l'art juif est assez simple. On regroupe sous le terme d'art juif les œuvres qui étaient à l'usage des juifs. Par exemple, les objets rituels, les manuscrits hébraïques ou la décoration des synagogues ou la synagogue, l'architecture des synagogues. Donc l'important, ce n'était pas tant par qui l'œuvre est réalisée, mais plutôt pour qui et pour quel usage. C'était, oui, justement, les œuvres qu'on appelait faisant partie de l'art juif n'étaient pas forcément réalisées par des artistes juifs, bien au contraire.
Bien, alors, puisque tu as parlé d'émancipation, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se met en place à partir de l'émancipation?
Alors, là aussi, étant donné que l'émancipation ne s'est pas faite d'un coup au même moment, faisons rapidement l'historique. C'est un événement qui s'est produit en commençant aux États-Unis et en Europe occidentale, vers la fin du XVIIIe siècle déjà. En France, c'est les années 1790 et 91. Donc c'est vraiment un mouvement d'ouest vers l'est, puisqu'il s'est répandu ensuite vers l'Europe centrale dans la seconde moitié du XIXe siècle pour atteindre l'Europe orientale vers la fin du XIXe siècle. Et c'est quoi l'émancipation qui s'est fait donc par cette vague d'ouest vers l'est? C'est un événement au cours duquel les Juifs ont reçu le statut des citoyens libres au même titre que les autres citoyens, ce qui pour les artistes, évidemment, c'est absolument pas négligeable.
Alors justement, quelles seront les réactions des artistes juifs à partir de cette émancipation?
Il y a eu plusieurs réactions. Les réactions suite à cette émancipation fraîchement acquise. Prenons deux exemples. Certains artistes juifs essayent de conserver leur identité juive, mais en travaillant évidemment dans un environnement majoritairement chrétien. Et certains artistes juifs vont abandonner leur identité juive pour épouser simplement leur citoyenneté sans confession. Alors, on pourrait passer en revue énormément de cas différents, bien au-delà de ces deux réactions. Si on regarde simplement deux exemples des premiers artistes émancipés, il faudrait parler en premier lieu de Moritz Daniel Oppenheim, dont la vie en fait recouvre le 19e siècle et qui est allemand. Et il est considéré comme le premier artiste juif moderne. Alors en quoi? Parce que, donc vraiment pas seulement artiste, mais artiste juif moderne, d'après l'émancipation. En quoi? Bien, parce que malgré les discriminations antisémites qu'il a subies et les pressions qu'il a subies pour se convertir au christianisme, ce qui était d'ailleurs un phénomène assez courant parmi les artistes juifs, puisque ça favorisait leur carrière avant l'émancipation, il resta très attaché au judaïsme. Il a demandé au Rothschild d'être son mécène et il a produit un art que l'on peut finalement qualifier d'art juif dans la mesure où il a toujours cherché à mettre en relation le judaïsme tantôt avec l'État, tantôt avec l'Église, dans une volonté de réforme en faveur du judaïsme. Alors, deux exemples. La première toile, le retour de l'engagé volontaire juif des guerres de libération dans sa famille vivant toujours selon l'ancienne tradition. Alors, je décris rapidement l'œuvre. Oui. C'est un tableau de genre, une scène de genre, une scène du quotidien, une famille et un intérieur. Un intérieur d'une maison juive, d'un foyer juif. Mais par le thème même, le retour de l'engagé volontaire juif des guerres de libération, on voit bien que c'était chez Oppenheim la volonté de montrer que les juifs étaient également engagés dans la guerre aux côtés de l'Allemagne, et donc il manifeste par là son patriotisme à l'égard de sa patrie, précisément. Mais tout en conservant sa judaïté. C'est-à-dire qu'il montre en quoi la population juive allemande était capable de servir sa patrie tout en restant fidèle à sa judaïté. Une autre toile qui est l'enlèvement de l'enfant Mortara, c'est une œuvre qui, là, met plutôt en relation le judaïsme avec l'Église, dans la mesure où là aussi il y a une volonté de montrer le chemin qu'il reste possible de faire entre l'Église et le judaïsme, c'est-à-dire une reconnaissance du judaïsme, une reconnaissance par le christianisme du judaïsme. Puisque, probablement nos auditeurs connaissent cet épisode de l'histoire, cet enfant, garçon de 6 ans qui avait été secrètement baptisé par sa nourrice et qui a été ensuite réclamé par l'Église et donc arraché à sa famille. Parce que baptisé. Mmh. Voilà. Donc là, vraiment, Oppenheim veut montrer qu'il reste encore des réformes à faire pour la reconnaissance du judaïsme, sa pleine reconnaissance au sein de la patrie. Alors, en fait, Oppenheim est intéressant parce que il montre par son œuvre, bon, on a vraiment montré par deux œuvres ici, mais comment il a su préserver sa propre foi et sa propre identité juive, comment il a su également montrer la beauté du judaïsme et des traditions. Par ses intérieurs, ses scènes de genre d'intérieur de foyers juifs. Et il utilise précisément son art pour montrer à ses contemporains les problèmes qui restent, auxquels les juifs restent confrontés. Et en fait, dans ce sens, il y a un parti pris pour le judaïsme. Donc c'est en cela que je pense que véritablement c'est le premier artiste juif moderne. Et d'une autre manière, il faut absolument parler également de Marc Antokolski, qui lui est de la Russie impériale, qui est considéré comme le premier grand artiste juif d'Europe orientale. N'oublions pas évidemment que cette émancipation s'est faite progressivement vers l'ouest, vers l'est. Il est né à Vilna, il a fait ses études à l'Académie d'art de Saint-Pétersbourg et il est très patriote aussi dans le sens où il va sculpter des sujets relatifs à l'histoire de la Russie. Je vous renvoie à la sculpture d'Ivan le Terrible en 1871. Pourtant, il traite également des sujets définitivement juifs. Par exemple, un relief qui s'appelle le Vieux Tailleur, où on le trouve également sous le titre du Tailleur juif, où l'on voit un vieux juif pauvre, visiblement plein de soucis, il est mal habillé, il se penche par la fenêtre, il a les yeux extrêmement éreintés par le labeur, et la fenêtre elle-même est toute de quincois. Et il cherche la lumière du jour pour réussir à enfiler l'aiguille. Alors là, ce qu'on voit, c'est effectivement en tant que sculpteur que Antokolski représente les conditions de vie difficiles des Juifs. Donc ce n'est pas une image très positive de la vie des Juifs. Au contraire, c'est presque une dénonciation de la condition des Juifs dans la Russie impériale. Dans les deux cas, néanmoins, Oppenheim et Antokolski cherchent à créer du mouvement pour susciter des réformes en faveur de ces juifs contemporains. Mais l'œuvre peut-être la plus fameuse d'Antokolski qu'il faut citer, c'est son Ecce Homo en 1873. Ecce Homo signifie « voici l'homme » en latin. Et c'est dans le Nouveau Testament le moment où Ponce Pilate livre Jésus à la foule qui sera à ce moment battu et couronné d'épines et surtout crucifié. Et Antokolski réagit aux pogroms d'Odessa qui se sont produits 2 ans plus tôt. C'est absolument contemporain à lui. Et il représente ce Jésus à ce moment-là du récit néo-testamentaire, il le représente avec ses papillotes, la calotte et costume.
Comme un juif qu'il est.
Absolument comme un juif qu'il est. Et précisément en cela, il souligne sa judaïté. Alors évidemment, il y a eu des scandales. Il y a eu deux réactions majoritaires. Les juifs, paradoxalement, qui étaient scandalisés par la représentation d'un Jésus par un juif. Et les chrétiens eux-mêmes qui étaient choqués puisqu'ils n'étaient pas habitués à voir Jésus, donc le Christ, représenté en simple juif et pas dans une représentation idéalisée. Et là, on connaît les intentions d'Antokolski grâce à sa correspondance. Il voulait rappeler aux chrétiens que Jésus était juif et précisément par rapport aux pogroms d'Odessa, il voulait rappeler à la communauté chrétienne qu'en persécutant les juifs, c'est-à-dire les co-religionnaires du Christ, passait à côté de son enseignement, évangélique. Alors, concernant l'art juif du XXe siècle, pour anticiper d'un pas, il faut garder à l'esprit que ça a eu une réception évidemment non négligeable dans l'esprit des autres artistes juifs. Et cette représentation du Jésus juif est devenue courante ensuite dans l'art moderne, notamment avec Chagall.
Tu nous as parlé de Oppenheim et Antokolski. Alors Oppenheim et Antokolski sont donc deux artistes émancipés qui ont cherché à concilier leur identité nationale avec leur identité religieuse.
Oui.
D'autres artistes se sont complètement intégrés, sans tenir compte, plus aucun compte d'ailleurs, de la judaïté, épousant pleinement l'art moderne, au point de devenir même les chefs de file de mouvements d'avant-garde.
Oui, effectivement, et ce phénomène, sans étonnement, a pris naissance en Europe occidentale, en France, avec, alors, prenons un exemple qui est assez significatif, avec Camille Pissarro, qui se considérait comme socialiste et que nous connaissons tous comme un artiste entièrement consacré à l'impressionnisme. Effectivement, quand on regarde une toile comme Gelée blanche en 1873, c'est-à-dire contemporaine, n'est-ce pas, à Ecce Homo d'Antokolski, il n'y a pas de traces de judaïsme.
Alors, y a-t-il d'autres exemples d'artistes assimilés en France au XXe siècle ?
Durant les quatre premières décennies du XXe siècle, évidemment, il y a eu de nombreux artistes juifs d'Europe orientale qui sont venus s'installer en Occident pour y trouver la paix et un bassin favorable à leur création, et surtout pour suivre les persécutions qui avaient encore cours dans leur pays d'origine. Pourquoi en France, évidemment, puisque c'était la capitale des mouvements d'avant-garde, je vous rappelle le fauvisme en 1905, le cubisme tout de suite en 1912, enfin je dis simplement les dates où c'est presque le paroxysme ou la naissance de ces mouvements, le surréalisme, le dadaïsme, etc. Et on va voir des artistes qui ne placent pas le judaïsme au centre de leur art, mais on voit quand même, donc ils seront très actifs dans les mouvements d'avant-garde, mais les deux exemples que j'ai choisis sont deux exemples qui montrent qu'on peut parfaitement concilier un intérêt évident pour ces mouvements d'avant-garde et pour les ruptures esthétiques, les ruptures formelles, sans oublier complètement son judaïsme. Alors, les deux exemples, c'est Lipschitz d'abord et Soutine ensuite. Alors, voyons Lipschitz. Il rejoint le groupe des cubistes, donc Picasso, Braque, Juan Gris, en 1914, parce qu'il est absolument fasciné par les possibilités formelles qu'offre le cubisme. Et pour ceux qui connaissent, rappelez-vous, par exemple, une œuvre cubiste, il est sculpteur. Hein, une sculpture, La jeune fille à la tresse. On voit dans une représentation encore figurative une jeune femme qui présente donc parfaitement des volumes cubistes. Dans l'ensemble de son œuvre, c'est un exemple, hein, mais dans l'ensemble de son œuvre, Lipschitz va utiliser des sujets relativement neutres, donc pas de sujet juif dans l'ensemble. Néanmoins, c'est là en fait que c'est intéressant, parce qu'on ne fait pas une émission sur le cubisme, mais sur l'art juif, qu'il commence dans les années 20 à se sentir un petit peu à l'étroit dans ce répertoire qu'offre le cubisme, un répertoire un peu trop neutre. Il y a un événement qui va venir aider évidemment ce déclic. Il va retourner en Lituanie voir son père qui est gravement malade. Et à cette au début des années 20, il va sculpter en pensant à son père une sculpture du sacrifice traditionnel du coq avant le jour du Yom Kippour.
Oui.
Donc, en fait, si on devait résumer un peu simplement, mais pour avoir une idée assez claire quand même de l'œuvre de Lipschitz, on a un artiste qui épouse complètement le cubisme, mais qui, à partir du moment où il veut exprimer des émotions plus personnelles, ce seront les référents juifs qui vont apparaître. Alors, un autre exemple qui, lui, est complètement différent, c'est Soutine, pas par rapport au cubisme, mais par rapport à l'expressionnisme. Il est issu également d'un shtetl lituanien, mais il a une enfance difficile. C'est-à-dire qu'on a cherché à aller à l'encontre de ses penchants artistiques, donc sa famille n'a pas accepté sa vocation artistique, et on a cherché à lui faire passer l'envie de peindre à coups de bâton, ce qui ne l'a pas dissuadé de peindre, mais qui l'a en revanche éloigné du judaïsme. Il a refusé de parler yiddish et puis bon, il a épousé véritablement la France en peignant des paysages français, Serré, la Gaude, etc. Beaucoup d'œuvres extrêmement expressionnistes. Il ne va pas perdre le contact avec la foi dans la mesure où il aura des sentiments ambivalents. Il se souvient du judaïsme, mais maintient des sentiments ambivalents compte tenu de son passé. Et il va peindre à deux reprises la cathédrale de Chartres et également un enfant de cœur. Donc, un lien quand même naturellement avec les questions religieuses, en fin de compte.
Bien, alors, en somme, à la question, peut-on, devant différentes peintures, sans connaître l'artiste, dire si c'est une œuvre d'artiste juif ou non ? La réponse est non. La réponse est oui, pas toujours.
Pas toujours.
Est-ce que chez certains artistes juifs, surtout entre les deux guerres mondiales, ça a changé leur approche de faire de l'art ?
Alors, pas tant entre les deux guerres mondiales que est-ce que les deux guerres mondiales ont changé l'approche des artistes juifs ? Oui, bien évidemment. En fait, il y a eu... Pour les fondements de l'art juif du XXe siècle, on les trouve déjà chez un critique, en fait, un critique et théoricien russe, Vladimir Stassov, qui avait la volonté que chaque nation ait son art spécifique. Mmh. Et de la même manière, il voulait que les Juifs aient un art juif spécifique. Et avec Antokolski, il était en lien avec Antokolski, il défendait donc l'idée d'un art national juif. Et il voulait fonder une école nationale d'art juif. Et c'est en cela, en fait, que ça va beaucoup influencer les artistes du XXe siècle. Puisque il y a deux aspects, là, deux manières de créer un art national, entre guillemets, juif, par le thème et par le style. Et par le style, c'est essentiellement la question de l'ornementation. Je vous renvoie naturellement au débat lié au deuxième commandement. Donc, en fait, si en réalité il n'y aura pas d'école avant la mort d'Antokolski, cette initiative, cette volonté de créer un art juif va avoir donc des répercussions sur la génération suivante, celle de Chagall et Boris Schatz. Alors, les deux, effectivement, ont proposé deux manières différentes de produire un art juif moderne, de proposer un art juif moderne. Il y en a d'autres, hein, mais
oui.
Ces deux-là en particulier, je propose de jeter un œil. Marc Chagall et d'autres artistes russes ont créé un art juif moderne fondé sur ses sources traditionnelles. En partie. Donc, par exemple, de nouveau la toile Le Mort en 1908 et l'autoportrait aux sept doigts en 1912, qui sont deux œuvres où Chagall convoque le folklore yiddish. Mais ce sont que les yiddish, juifs yiddish, qui peuvent véritablement le comprendre.
Exactement.
Hein, à partir du moment où ils le connaissent. Donc, sa volonté était de perpétuer la culture juive dans la diaspora après l'émancipation, c'est-à-dire lui en tout cas, pas forcément en voulant que ça se répercute sur le spectateur, mais dans tous les cas, Chagall, lui, a voulu maintenir le lien avec la culture juive. Et d'une autre manière, Boris Schatz avec le congrès sioniste, va parvenir à fonder l'école Bezalel à Jérusalem, qui est une école d'art au sens large, qui existe évidemment encore aujourd'hui et qui est même très importante comme école d'art. Donc il y a véritablement une grande école d'art, école Bezalel à Jérusalem, et Bezalel du nom de l'artiste qui a réalisé l'arche d'après les prescriptions de Moïse, qu'il a reçu directement de Dieu. Voilà, donc Boris Schatz, lui, avait plutôt dans l'idée de... non pas de maintenir l'idée d'un art juif dans la diaspora, mais véritablement de faire renaître un art juif à Jérusalem. On n'aura jamais fini de débattre de la question de l'art juif ou même de la question de l'existence d'un art juif. Mon rôle n'est pas de trancher s'il existe ou non un art juif, mais peut-être chacun le ressent d'une façon différente. En définitive, je crois que le plus simple, c'est, si possible, de demander à l'artiste. Et effectivement, en ce qui concerne l'œuvre de Chagall, que je connais peut-être mieux que les autres artistes, Chagall a toujours insisté sur son attachement au judaïsme, malgré les polémiques et malgré une iconographie parfois néo-testamentaire. Donc voilà, je pense que le plus simple, en prenant cet exemple, c'est encore de demander à l'artiste lui-même.
Bon, et puis comme tu le disais, puisqu'on n'a toujours pas trouvé de réponse, on va dire réponse à suivre. Je vous remercie, je te remercie d'abord,
merci beaucoup pour l'invitation.
Merci de t'être déplacée. Je précise toutefois que cette émission a été enregistrée. Bon, au revoir et à bientôt. C'était Judaïsme pluriel. Alors à la semaine prochaine. Au revoir.